Demain, je recevrai la comédienne Iyam Abbas, qui vient de réaliser son premier film, Héritage, l'histoire d'une jeune palestinienne confrontée au poids des traditions. Et Paul Morera, pour son documentaire sur les rapports hommes-femmes en Égypte et en Tunisie, sexe, salafiste et printemps arabes. À demain.
Une émission de Stéphanie Duncan, ce vendredi, à partir de 9h. France Inter.
La voix est libre.
Vous ne pourrez y échapper. Il est là. Là-bas, si j'y suis, c'est Daniel Mermet.
Attentats à Buenos Aires, à Johannesburg, à Tokyo, à Prague, à Milan, à Kinshasa et à Paris. Je suis sûr que depuis quelques heures, sur toutes les radios du monde, on entend ce morceau Tech Five de l'orchestre de Dave Brubeck. Vous le savez, Dave Brubeck est mort il y a quelques heures et c'est sans doute le morceau de jazz le plus connu au monde. Le monde entier est en train de rendre un hommage à ce génial musicien et à ceux qui l'accompagnaient, notamment Paul Desmond, le saxo, qui était le créateur de ce morceau, et aussi Joey Morello et Jane Wright, qui formaient le fameux Quatuor. C'était en 1959. Et souvent dans cette émission, on dit savant et populaire à la fois. Eh bien, c'est exactement ça qu'on veut dire quand on dit faire un art, faire une expression, fût-elle journalistique, qui soit savante et populaire à la fois. C'est exactement ce qu'a fait Dave Brubeck à cette époque. Et puis, au cours de toute sa vie, immense musicien, exigeant, savant et populaire, puisque je suis certain qu'actuellement, c'est le morceau le plus joué à travers le monde. Et voilà que il est succédé, lui succède, dans la mort, Oscar Niemeyer. 104 ans, Oscar Niemeyer est mort, et ça évoque la même époque. La même époque où on croyait au progrès, où non seulement on le croyait, mais on le faisait, on inventait, et Oscar Niemeyer n'a pas cessé d'inventer des formes de vie, de ville, de construction, de peinture, de dessin, et une conception aussi du monde et de la politique. On oubliera sans doute dans les hommages qui lui seront rendus qu'il était communiste, Oscar Niemeyer, et qu'il tenait toujours à le déclarer, qu'il rendait hommage à Fidel Castro. Toute sa vie, il a été très engagé sur le plan politique. On l'oubliera d'ailleurs, j'espère pas définitivement, que Mandela aussi est communiste. Mais ça, ça fait partie des choses qu'on passe sous silence. Hommage aujourd'hui, vous avez compris, dans la basse, j'y suis, à ces hommes et ces œuvres qui sont des références. Et ces hommes sont des références pour tous ceux qui les ont fêtés, qui les ont célébrés, qui les ont aimés et qui ont aimé leur musique et qui l'aiment aujourd'hui à travers le monde, que ce soit l'un là qui est au piano, vous entendez cet ostinato de piano, et l'œuvre de Oscar Niemeyer, deux exemples pour nous tous qui sommes là ensemble jusqu'à 16h et qui commençons par écouter le répondeur de la basse j'y suis.
Enfin, merci Daniel Mermin, merci d'avoir enfin évoqué le nom d'Ambroise Croizat, hein, qui est indissolublement associé à la création de ce monument d'humanité, de fraternité, de justice qu'est la sécurité sociale. Lorsque je pense qu'on envisageait le transfert aux Invalides, voire au Panthéon, des cendres de Bijard, moi, je suggère que l'on exige le transfert des cendres d'Ambroise Croizat au Panthéon.
Bonjour Monsieur Mermet, votre émission qui vient de passer là cet après-midi sur la sécurité sociale était très intéressante, j'en conviens. Il y a quand même quelque chose qui m'a choqué, c'est cette généralisation sur les patrons qui auraient collaboré. Moi j'ai des dizaines de noms de patrons, dont Monsieur Michelin, je suis un ami de Germaine Tillon et de Jacqueline Perry du réseau Jean Moulin, Germaine Tillon du réseau Musée de l'Homme et Geneviève Antioleuzo, Madame Postelvinet, que j'ai connue également, qui peuvent vous affirmer que M. Michelin a été exécuté au camp de Buchenwald. Voilà des choses comme ça qu'il faut savoir. Alors là, manque de chance, vous avez généralisé sur les patrons. Non, tous les patrons ne sont pas des salauds, tous les médecins ne sont pas des salauds. Il y a quand même une question dans vos propos quelquefois qui montrerait que vous n'aimez pas beaucoup les bourgeois. Vous en avez tout à fait le droit. Je suis issu d'un milieu prolétaire, je suis devenu un bourgeois. C'est peut-être ça qui fait que je défends les deux, et les prolétaires et les bourgeois. Car chez les bourgeois, il y a eu de très grands résistants parmi les bourgeois, dont Germaine Tillon, qui était issue d'une famille de bourgeois. Merci.
Eh bien oui, parlons-en de la sécurité sociale et de la manière dont elle est menacée. Et le pire, c'est qu'elle est bien sûr depuis sa naissance remise en cause par les patrons, mais elle a été aussi bien sûr et beaucoup remise en cause, y compris par les gouvernements socialistes et enfin, les gouvernements de gauche, encore tout récemment par le gouvernement Hollande. Et il voudrait évidemment carrément en finir avec les cotisations, avec le salaire différé. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des syndicats, la CFDT par exemple, y compris certains courants de la CGT, qui sont prêts à en finir avec la sécurité sociale. C'est le plus grave.
Cher Ambroise, dans un grand silence médiatique, sauf chez les nôtres, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 est examiné au Sénat. Or, le projet de loi pour 2013 n'a pas rompu avec la terrible logique de la maîtrise des dépenses engagée depuis près de 25 ans, qui signifie toujours moins l'accès aux soins et à la retraite pour une part croissante de la population. Au final, les médias orientés annonceront, tu t'en doutes, le rejet du texte grâce à une alliance front de gauche et droite lors de son vote. Régis de Nîmes.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Vous vous souvenez de la phrase prononcée hier par Michel Etiévan au sujet d'Ambroise Croizat dans le reportage de François Ruffin. Et Croizat disait « Ne parlez jamais d'acquis en face, le patronat ne désarme jamais ». Eh bien, voilà, c'est un peu ça qui nous donne, qui nous a donné envie, avec Antoine Chao, d'essayer de comprendre où on en est dans notre système de santé en France. Évidemment, c'est un domaine essentiel, capital, et nous avions, est-ce qu'il faut déjà parler à l'imparfait, le meilleur système de santé du monde, la planète entière reconnaissait. Souvenez-vous du film de Michael Moore sur la santé, qui faisait l'éloge du système de santé français. Il semblerait que c'est un des grands trésors qui nous restait, mais que ce trésor et ce monument soient menacés. Ce monument qui avait réussi à s'imposer face au système libéral est en train de perdre du terrain, ça fait déjà pas mal d'années. Les dépassements d'honoraires, il en est question, il en sera question dans cette heure. Les internes sous-payés, on va les rencontrer. Les patients qui renoncent à soigner, les déserts médicaux, toujours moins de remboursements, la privatisation rampante. Voilà, ça dure depuis 30 ans et on le sait déjà, vers une santé à deux vitesses. C'est notre sujet du jour, le meilleur système de santé du monde. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, je suis au Vietnam et dimanche dernier, il y a eu 4 enfants qui sont morts à cause d'une bombe que les États-Unis avaient laissé tomber il y a 37 ans maintenant, après 75. Et depuis 75, il y a eu 42 000 morts à cause des mines antipersonnelles et des bombes. Les Américains tuent encore après 37 ans au Vietnam.
Oui, bonjour Daniel, c'est la CGT des services publics du Rhône. Je t'appelais pour signaler un rassemblement qui aura lieu à la mairie de L'Arbrel dans le Rhône le 14 décembre à partir de 9h30. Donc c'est pour protester contre la répression syndicale qui est exercée sur le responsable des services publics du Rhône de la CGT et sur tout ce qui se passe dans le département actuellement, sur les élus CGT. Donc il y a eu tout un tas d'histoires. Donc je vous invite à aller voir le blog de la CSD. Je vous remercie, je te remercie Daniel.
J'ai vu Benjamin Coria, le vice-président des économistes atterrés, deux fois à la télé. Mardi chez TADI et mercredi sur Arte dans 28 minutes. Mais que fait la droite? On va quand même pas laisser ces gauchistes envahir les écrans. C'est un scandale, c'est une honte.
Oui, bonjour, c'est Olivier Lefralim. C'est pour donner un peu de nos nouvelles sur la diffusion qu'il y avait eu sur nous. On est toujours dans la lutte. Aujourd'hui, ça fait 800 jours qu'on lutte. On continue à avancer contre tout ce qu'il y a contre nous, mais nous, on continue à avancer. Et on a déposé déjà notre projet de statut de la future SCOP. Elle s'appellera SCOPTI. Et là, on s'apprête cet après-midi à aller en préfecture devant le comité d'engagement pour présenter notre projet et continuer à avancer et surtout imposer à ce que Unilever tienne ses engagements et surtout assume toutes ses responsabilités dans le carnage à l'emploi qu'ils font en détruisant l'emploi malgré les milliards de bénéfices qu'ils font. Nous, ce qu'on cherche, c'est repartir avec une activité industrielle qui permettra de maintenir la totalité de nos emplois.
La protection sociale, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et cette conquête, vous voulez la préserver.
Dis donc, t'es bien assuré pour ta santé?
Car la santé est incontestablement l'une des plus grandes préoccupations de nos compatriotes.
Offre soumise à condition pour les contrats d'assurance multirisque. Disponible en agence ou sur .fr.
Le risque, il a un nom. C'est le marché. Le marché libre. Libre d'augmenter sans limite les coûts de la couverture en fonction de l'âge.
Notre combat est simple. Ça vient ensuite menace directement l'exercice des médecins. C'est mettre un plafond, c'est ce secteur 2, ce dépassement qui leur permet de suivre le cours de la vie et de pratiquer une médecine de qualité. Et donc on va dans le mur, direct. On va à une crise de santé publique majeure et il faut que le gouvernement s'en aperçoive.
À chacun sa protection santé.
Cette liberté, elle a aussi un nom. C'est la privatisation.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la base si j'y suis, avec Antoine Chao, le meilleur système de santé du monde.
Flight number 2, arriving from...
Alors c'est la manif là des internes.
Alors
c'est une musique de merde, mais ça, faut pas quand même s'arrêter à ces détails là. On va essayer de rencontrer les internes. Donc il y a un interne de Toulouse qui nous a laissé un message.
Bonjour Daniel, j'appelle de la part des internes en médecine des hôpitaux de Toulouse. Comme vous le savez sans doute, on est en grève totale et illimitée depuis lundi. Alors on a beaucoup de bêtises et on voudrait recadrer les choses. Notre grève, elle vise à s'opposer au projet de loi numéro 296 qui doit être voté prochainement à l'Assemblée. Cette loi permettrait à des mutuelles de créer des réseaux de praticiens avec lesquels elles pourraient pratiquer des taux de remboursement différentiels. En clair, ça veut dire que l'État se désengage de la santé au profit d'entreprises privées qui établiront des politiques médicales axées sur de la rentabilité. Pour les patients, c'est la perte du libre choix du praticien et pour le médecin, une perte d'indépendance gravissime. On aimerait que la population se saisisse un petit peu de cette histoire aussi. Contrairement à ce qu'on croit, on n'est pas des petits nantis qui se battent pour plus de revenus ou pour s'acheter une Porsche. On se bat pour des patients dans cette histoire-là. Alors si vous voulez plus d'infos, on manifeste à Paris mardi avec des internes de toute la France. Et je pense que ça vaudrait le coup de venir voir ça pour informer un petit peu plus la population sur ce qui les attend.
Enchanté.
Voilà, on s'est trouvé.
Ouais, parfait.
Alors vous aviez pas de blouse, alors je ne vous retrouvais pas en fait.
Et non, c'est pour ça, parce que je suis leur gars, donc j'en ai pas.
D'accord.
Je vais alors... vous conduire avec Toulouse là-bas, ça vous va?
D'accord, on y va. Allez,
on va trouver quelqu'un d'adapté.
Ouais, d'accord.
Je vais vous trouver quelqu'un.
Ouais, ok. Alors, on va trouver quelqu'un. Alors, en fait, la personne qui avait laissé le message sur le répondeur, c'était un des organisateurs de la manif. Ah, j'attends là. Donc, on me cherche quelqu'un qui sera en mesure de nous expliquer les revendications de cette joyeuse bande de futurs médecins en blouse blanche et pour la plupart internes étudiants. Il y a du gros son, mais il y a une petite foule.
Des hôpitaux de Toulouse.
Bonjour. Alors, ce rassemblement aujourd'hui, c'est quoi cette marche, cette manifestation?
Et c'est la marche des internes des hôpitaux de toute la France, en fait, pour protester contre le nouveau projet de loi concernant l'entrée des mutuelles dans le parcours de soins des patients en France.
Donc, cette manifestation aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec le mouvement lancé, les médecins ne sont pas des pigeons?
Pas du tout, pas du tout. Là, on reste sur le même mouvement qui était initialement lancé pour protester contre nos conditions de travail, pardon, et également contre cette loi sur les mutuelles qui amorce un virage de privatisation de la santé.
Et qu'est-ce que vous pensez de la question du dépassement des honoraires?
Alors ça, c'est un autre débat et je pense pas être assez qualifié pour pouvoir vous répondre.
Oh là 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 là. Alors là, ce que vous venez d'entendre, c'est pas facile à décrypter, hein. C'est pas facile à décrypter, vous nous connaissez. Nous, s'il y a une manifestation quelque part, on y va. 24 heures sur 24, on est là à votre disposition. Dès qu'il y a une manif dans une rue, là-bas, si j'y suis arrivé, vous avez vu, hop, Antoine Chao est arrivé tout de suite. Des gens qui sont dans la rue et qui critiquent le gouvernement, c'est pour nous, c'est pour là-bas, si j'y suis, on arrive et ça nous intéresse. En plus, là, c'est des internes. Vous savez ce que sont les internes? Des gens exploités, surexploités, qui font 60, 70 heures de travail par semaine, qui sont payés avec un lance-pierre, etc. Donc, des exploités, des damnés de la terre, et nous sommes là aussi, nous, pour soutenir les damnés de la terre. Nous sommes du côté des opprimés, donc c'est parfait, cette manifestation. Et pour nous, on va la couvrir, cette manifestation. Alors par contre, c'est un peu moins clair quand il s'agit de l'entrée des mutuelles dans le parcours de santé. Ça, c'est moins clair pour nous. On va essayer de comprendre en quoi est-ce que ça menace le système de santé en France, que cette loi qui est passée au Parlement, voulue par la ministre de la Santé. Et puis alors, la question du dépassement des honoraires, qui nous semblait à nous une question qu'on pouvait peut-être timidement essayer de commencer à esquisser, de poser, là, c'est pas le sujet. Alors vous voyez, il y a quand même encore beaucoup de questions à se poser. C'est une étrange, une bien étrange manifestation que celle-ci. On va essayer de comprendre et de décrypter ce qui s'est passé là, tant il est vrai, et notre président de la République a bien raison, tant il est vrai que la question de la santé en France est un problème primordial. On parle de grands corps malades, on nous dit France, ta santé fout le camp, on se demande bien pourquoi et comment ça se passe et comment ça s'est passé. Beaucoup de questions se posent actuellement et on va essayer timidement et modestement, vous nous connaissez, mais quand même avec un peu de génie, de comprendre tout ça et en partant de cette très belle phrase prononcée par le président de la République lorsqu'il était candidat, qui rappelait « La protection sociale, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. »
Je vois le docteur Frankenstein, je vois des étranges instruments, je vois des soignants terrifiants aspirant mes fluides et mes sangs, je vois des toupies psychopathes, je vois des psychiatres sacariens, je vois des figures inhumaines, des infirmières croque-mitaines, enfilant des gants de latex, sous le feu des éclairages blancs, dénudant mon corps inquiétant, je sens soudain monter la peur, le contact glacial du métal, la peur, l'ombre de la maladie mentale. Le lit roulant de mes bourreaux, dans mes draps baignés de sueur, je sens soudain monter la peur, le contact glacial du métal, la peur, l'ombre de la maladie mentale, la peur.
C'est le début de 5 ans d'internat, le goulag. Voilà. Au bain mot, 300 heures par mois. Nuit et jour sans rentrer chez moi. Et pour tout ça, on devrait remercier l'État. Et dans tous les médias, on ne critique que moi. Le nanti, le bourgeois, le méchant, le sournois. Est-ce vraiment pour l'argent que je ne vois pas mes enfants? Alors que toi, Marisol, tu nous dis intéressé, nous t'invitons sur le sol, voir la réalité. Tu ne tiendras pas une journée à notre rythme effréné. Et nous avons Jérôme Marty, président de l'UFML, qui nous soutient, qui est de notre côté et qui est là avec nous aujourd'hui.
Chers amis, aujourd'hui c'est votre manifestation, c'est la manifestation des internes, de la France entière, du nord au sud et de l'est à l'ouest, les internes dans la rue, contre le projet de Marisol Touraine. Les internes, je vous entends crier. Et demain, les internes, les généralistes, les spécialistes, les chirurgiens, les cliniques et l'hôpital public, ensemble dans la rue, contre la réforme. Merci.
Monsieur Marty, je peux vous poser d'autres questions. Vous êtes solidaire des internes, c'est ça?
Bien sûr. Notre combat est simple. Et simple et compliqué à la fois. Vous l'avez vu, il y a une signature qui est appelé l'avenant 8, qui a été signé. Cet avenant 8 menace directement l'exercice des médecins. C'est mettre un plafond à ce que notre ministre appelle les dépassements d'honoraires et que nous appelons les honoraires complémentaires.
Avec ce plafond, les médecins chirurgiens ne pourront plus exercer, ne pourront plus pratiquer des actes techniques, parce que ces actes-là sont par définition chers, et donc ils sortent du plafond qu'on leur a fixé. Donc ça met à bas la chirurgie française. Et ensuite, bien évidemment, notre combat à tous, c'est les réseaux de soins. Parce que les réseaux de soins, tels que les mutuelles les conçoivent, mettent à bas à la fois la liberté de choix pour le patient et la liberté de soins pour le médecin. Et ça, on ne peut pas l'accepter. C'est une marchandisation de la santé, et ce n'est pas le système français.
Mais est-ce que justement le dépassement d'honoraires, ce n'est pas une marchandisation de la santé, justement, déjà ?
Non, le dépassement d'honoraires, d'abord, je vous dis, ce n'est pas un dépassement, c'est un honoraire complémentaire. Il est obligatoire puisque les tarifs n'ont pas été revalorisés depuis 30 ans. Le seul gap, ce qui permet aux chirurgiens d'exercer et aux médecins en général, qui sont un secteur 2, c'est ce secteur 2, ce dépassement qui leur permet de suivre le coût de la vie et de pratiquer une médecine de qualité. Et donc on va dans le mur, direct. On va à une crise de santé publique majeure et il faut que le gouvernement s'en aperçoive.
Oui, professeur Grimaldi, c'est Antoine Chao, je vous ai envoyé un message. Vous auriez un petit peu de temps pour qu'on se... Oui, ouais, parce que là j'ai suivi la manif là, des internes là, cet après-midi. Je comprends pas très bien le message, je comprends pas si c'est... Ouais. Pavillon La Rochefoucauld à la Pitié, très bien. Premier étage, pas tout de suite.
Alors, hôpital universitaire La Pitié, Salpêtrière. Bâtiment La Rochefoucauld-Liancourt, niveau 1. Médecine diabétologique, service du professeur Grimaldi. Une petite note en bas de page, secteur 1, secteur 2.
Alors, secteur 1, c'est-à-dire, c'est le secteur dans lequel s'installent les médecins conventionnés qui pratiquent des tarifs qui sont ceux de la sécurité sociale. Donc, le malade est remboursé au tarif de la sécurité sociale. Médecin ou chirurgien ou spécialiste, des spécialistes, alors... Pour les généralistes, ce secteur est quasi obligatoire, donc il y a 90% des généralistes sont dans ce secteur, secteur 1. Le secteur 2, c'est le secteur à dépassement d'honoraires. Il concerne 85% des chirurgiens, et ça ne va qu'augmenter. C'était 40% des spécialistes, mais ça augmente, parce que l'an dernier, 70% des spécialistes sont mis en secteur 2. Et comme il y a ce secteur 2, ben c'est un argument pour ne pas revaloriser le secteur 1. On dit aux chirurgiens, bon d'accord, la colectomie, l'ablation du côlon, une grosse intervention est très mal remboursée. Mais de toute façon, vous êtes en secteur à dépassement d'honoraires. Bon, en gros, la Sécu se défausse sur les mutuelles et assureurs privés. Alors il y a des gens qui pensent qu'à terme, eh ben, la Sécu, ça sera une assurance parmi les autres. En gros, tout ce qui est rentable, acte, vous devrez avoir une mutuelle, une assurance privée. Et puis, pour les pauvres ou les soins très coûteux, alors il y aura la Sécu. C'est très dangereux, ça. Parce que le jour où vous payez deux fois, une fois la Sécu pour la solidarité et pour les maladies très graves, une autre fois votre assurance privée, que le coût des assurances privées augmente de 5 à 8% par an, il y a un moment où vous dites, comme aux USA, j'en ai marre, je paye deux fois. Une fois pour moi et une fois pour la solidarité. Et vous dites, la solidarité, j'en ai assez. Les pauvres, ils abusent. Et donc, vous dites, moi, je veux que la sécurité sociale soit une assurance comme les autres. Donc, il y a une vraie menace. Mais il faut bien comprendre que le dépassement d'honoraires servent à cette menace, sont un outil de cette menace. Alors, il y a quelques paradoxes à voir ceux qui ont des grands dépassements expliquer qu'ils veulent défendre la Sécu, qui ne rembourse pas les dépassements. Hein. Les jeunes, eux, c'est plus compliqué, parce qu'ils peuvent dire ça très sincèrement, quelque part, en croyant bien faire, et en se rendant pas compte quels intérêts ils servent.
En France maintenant, la signature d'une convention
TF1
entre les médecins et les caisses de sécurité sociale devrait intervenir en principe avant la fin de ce mois.
7 avril 1980.
Entre les médecins et la sécurité sociale, la négociation traîne en longueur depuis plusieurs mois, elle a été interrompue, elle pourrait reprendre cette semaine. L'un des sujets de désaccord entre les praticiens et les caisses porte sur le droit permanent au dépassement d'honoraires, un dossier préparé par Catherine Mamet.
Actuellement, plus de 14% de l'ensemble des médecins ont droit au DP, 4,5% de généralistes, 24% de gynécologues, 77% de neurochirurgiens, entre autres. Mais les praticiens bénéficiant de ce privilège ne l'utilisent pas tous. Seulement un tiers des généralistes, la moitié des cardiologues et des chirurgiens tirent avantage de ce droit. Le montant du DP est déterminé avec tact et mesure par le praticien qui l'applique. C'est en tout cas ce que préconise le texte de la Convention. En fait, les dépassements s'élèvent en moyenne à 4 fois le montant d'une consultation conventionnelle. Mais ils peuvent aller dans la capitale et dans les grandes villes jusqu'à 10 fois ce prix. Le malade étant remboursé, bien sûr, mais uniquement sur la base du tarif conventionné.
Pas facile, hein ? Pas facile de comprendre ce qui se passe dans cette fameuse manif du 20 novembre. Les choses ont changé depuis. On a cru que la loi était acceptée sans problème. Cette fin de semaine dernière, dimanche dernier, il y a à nouveau eu des manifs des médecins, pas contents du tout, défendant ce système de dépassement. Mais le défendant pas comme ça, parce qu'évidemment, défendre le droit de dépasser ou la possibilité ou l'habitude de dépasser, c'est pas très très populaire. Alors on essaye de faire autrement, par exemple en mettant les internes devant les internes qui sont des victimes qui travaillent trop, etc., auxquels à chaque fois qu'ils se plaignent, on dit oui, mais d'accord, mais oui, pour l'instant c'est un peu dur, mais vous verrez par la suite. Alors regardez un petit peu les salaires, les revenus qui seront les vôtres et votre possibilité de dépassement à votre tour. Donc venez manifester dès à présent, et c'est une façon un peu de mettre les petits devant et les gros derrière. Quant à comprendre exactement pourquoi ces médecins s'opposent au système de réseau de soins et appelle ça la marchandisation de la santé, c'est vrai que c'est pas très très simple. Ça fait partie de tous ces systèmes qui consistent à utiliser les armes de l'adversaire et les retourner contre lui. Par exemple, je fais une petite sortie de piste là, mais l'islamophobie actuelle se masque derrière le féminisme, derrière la défense des droits des femmes. Alors on dit, ben ça c'est bien, alors nous aussi on est pour le droit des femmes et pour l'égalité. Voilà, et donc c'est une façon d'avancer contre la burqa, par exemple. Ou bien on va défendre la laïcité. Alors on dit, ben ça c'est très bien, nous aussi on défend la laïcité. Alors ça, s'il y a une valeur et c'est quelque chose à quoi on tient, c'est bien la laïcité. Et donc on veut attaquer par là l'islam qui mettrait en cause la laïcité. C'est des procédés, c'est des très vieux procédés de lutte, de façon, des manières, des stratégies pour se masquer, avancer, déguiser. Il suffit simplement d'être assez malin pour déjouer ces pièges. Mais c'est pas toujours commode.
Alors vous distribuez des tracts hein, pour un syndicat de médecins hospitaliers, c'est ça ?
Exactement. Syndicat national des médecins force ouvrière.
Alors vous pensez quoi de ce mouvement, vous ?
Les médecins, la population ne peut que approuver et soutenir le mouvement des internes.
Et vous êtes solidaire du mouvement des médecins ne sont pas des pigeons ?
C'est autre chose. Pour la clarté du débat, je m'en limiterai à ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'en disant ça, nous éclairons les auditeurs, nous éclairons les Français.
Mais non, mais vous ne m'avez pas éclairé. J'arrive pas à comprendre si ce sont deux mouvements antagoniques ou convergents.
Ce sont deux mouvements, je réponds avec précision. Ce sont deux mouvements différents qui ne sont pas forcément antagoniques. Voilà ce que l'on peut dire pour être clair.
D'accord. Parce que ça fait quand même pas l'unanimité, cette contestation. Il y a une pétition qui a été signée par différents professeurs, notamment le professeur André Grimaldi.
C'est un fait. Mais je pense que le professeur Grimaldi fait fausse route.
D'abord, il faut comprendre que les internes ont des conditions de travail souvent assez dures, parfois très durs, et sont globalement mal payés. Et ça vient de l'histoire ancienne, qui est, vous terminez vos études ou votre spécialité, vous rattraperez plus tard. Alors du coup, le mouvement est parti, en fond, sur les dépassements d'honoraires, avec des gens qui dépassent vraiment de manière incroyable, puisque les dépassements vont de 1 à 10. C'est difficile à justifier une telle disparité, même si les tarifs sécu sont souvent sous-évalués, notamment en chirurgie viscérale. Pour un cancer du côlon, c'est 400 euros. Pour la thyroïde, avec curage de glandulaire, pour un cancer de thyroïde, 380 euros. Le chirurgien libéral, il paye son aide opératoire, il paye sa secrétaire. Donc il y a des tarifs réellement sous-évalués, des tarifs de la sécu. Alors, évidemment, ce, ce mouvement est assez peu populaire quand même, une période de crise, et puis vous ne pouvez pas justifier 1000, 1500, 3000 pour une prothèse de hanche. Bon. Alors, l'idée est la suivante. On veut limiter les dépassements d'honoraires. Eux sont complètement contre toute idée de limite, parce que ce sont des libéraux, ils sont contre l'État, contre la Sécu. Sont... Voilà. Et c'est suivi par, évidemment, ceux qui se projettent sur eux, qui sont les internes, qui se projettent, les internes des chefs de clinique, qui se projettent, ils disent « Demain, c'est nous dont nous défendons pour demain ». Sauf que le mouvement est peu populaire. Alors, face à ce dépassement d'honoraires dérégulé, c'est un argument qu'utilisent les mutuelles et les assureurs privés pour dire « Bon, visiblement, vous n'arrivez pas à réguler ces gens-là, nous, on va le faire ». Grâce à un conventionnement sélectif. Autrement dit, vous appartenez à des réseaux de santé tenus par des mutuelles qui vous disent, vous êtes adhérent à ma mutuelle, vous allez voir tel chirurgien, il est conventionné avec moi, ses dépassements d'honoraires seront limités par la convention. Le danger, il est clair, c'est qu'à ce moment-là, les mutuelles et assureurs privés deviennent des organisateurs du système de soins, des prestataires du système de soins, comme ils le sont aux USA. Sauf que ceux qui favorisent ce mouvement, qui est un mouvement effectivement très dangereux, très libéral ou néolibéral de type ce qui se passe aux USA, ce sont les dépassements d'honoraires. C'est parce qu'il y a ces dépassements d'honoraires que la mutuelle dit ah « Écoutez, moi je veux bien payer, mais il faut que j'organise. Je veux pas payer à fond perdu. Je demande des comptes. » Et les adhérents des mutuelles disent bah « Ben oui, nous préférons qu'il y ait des réseaux de santé. » Plutôt qu'être seul face à un médecin qui me dit « Il y aura un petit dépassement. » Et en fait, dans les petits dépassements, c'est 2,5 milliards par an. Et seulement un tiers payé par les mutuelles. Le reste, c'est la poche des patients. Alors, face à l'absence de popularité d'un tel mouvement dans la situation actuelle du pays, on désaxe en disant « les mutuelles veulent mettre la main sur le système de santé, elles sont pleines aux as, hein, nous, nous défendons la sécu, c'est un pur argutie ». Alors qu'est-ce que les mutuelles, elles, trouvent argument des dépassements d'honoraires pour dire « nous voulons organiser le système ».
C'est les internes qui prennent le relais pour faire un mouvement qui serait plus populaire, plus sympathique, qui défendrait le patient.
Absolument, parce que les internes...
Plutôt que de plumer le client.
Les internes, voilà, parce que les pigeons dans cette histoire, il faut savoir si c'est les médecins ou si c'est les patients. Et au lieu d'être en première ligne, les pigeons se mettent en dernière ligne aux internes, allez-y. Dites que tout ça, c'est un mouvement contre les mutuelles. Ça n'empêche que l'histoire des mutuelles est un vrai problème. Les mutuelles, c'est moins égalitaire. Si vous avez des risques de santé, vous n'êtes pas couvert de la même façon et les tarifs ne sont pas les mêmes. Si vous êtes vieux, c'est trois fois plus que vous êtes jeune. C'est moins solidaire, parce que le tarif ne dépend pas de vos revenus. Et c'est surtout beaucoup moins efficient, beaucoup plus coûteux. Les frais de gestion des mutuelles, c'est entre 15 et 20% du chiffre d'affaires. La sécurité sociale, c'est moins de 5%. Et en Alsace-Moselle, la sécurité sociale, c'est moins de 1%. Donc... mettre le pas, dire aux mutuelles, vous allez organiser le système, ce qu'on a fait depuis 10 ans. Hein. Depuis 10 ans, c'est une dérive constante. À l'occasion, d'ailleurs, les pigeons n'ont absolument pas protesté. Hein. D'ores et déjà, d'ailleurs, les assurances privées lucratives ont le droit de sélectionner, de conventionner des médecins. Nos pigeons ne protestent pas. Donc, admettons qu'ils soient sincères, la réponse qu'on doit leur dire, donc vous devez accepter une limitation des honoraires pour que ce ne soit pas les mutuelles qui disent « on va les limiter ». Si les médecins ne veulent pas que les mutuelles organisent le système, ils doivent dire eux-mêmes « il y a une limite ». Alors quelle est cette limite? Alors ce mouvement ne donne aucune limite. Il ne dit pas « c'est deux fois », il ne dit pas « c'est trois fois », il ne dit pas « c'est quatre fois », il dit « c'est pas à la société de décider des limites, c'est à nous ». Et en pratique, ça va de 1 à 10. Ce n'est pas acceptable. Voilà.
Ce que je souhaite, c'est que d'un côté, soit sanctionné et donc définit des sanctions fortes, dissuasives, vis-à-vis des dépassements abusifs.
Marisol Touraine.
Et d'un autre côté, que les médecins,
11 octobre 2012,
s'engagent dans un contrat avec l'assurance maladie, qu'ils s'engagent à limiter leurs dépassements, qu'ils s'engagent à recevoir davantage de patients sans dépassement.
Globalement ou individuellement ?
Individuellement. Et que nous arrivions dans cette perspective-là à valoriser une médecine qui est une médecine qui pratiquent des tarifs qui sont accessibles pour les Français. Moi, je le dis, c'est au nom de l'accès aux soins des Français que j'ai souhaité engager cette discussion et cette négociation. Et je crois que beaucoup de médecins l'entendent. Je souhaite que la négociation aboutisse, mais je le dis clairement à votre antenne, je n'accepterai pas un accord qui serait un accord au rabais et qui, au fond, servirait simplement à marquer un signe de bonne volonté sans que cela se traduise très concrètement par une meilleure prise en charge des malades.
MST au bûcher !
T'es un peu violent quand même, hein, MST au bûcher, là, hein ?
Bah, quand on nous attaque, forcément, on répond. Je veux dire,
alors,
on est assez solidaires entre nous. Donc moi, en fait, je m'appelle Karine Bastel-Amzalag et je suis cardiopédiatre et pédiatre de formation. Et notamment récemment installée en libéral dans le Val-de-Marne.
Alors vous avez le t-shirt « Les médecins ne sont pas des pigeons hein, », UFML. Ouais.
Voilà, tout à fait. Simplement pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on cache à la population générale. Et toute la mauvaise presse qu'on fait sur les médecins, elle n'est pas souhaitable. Simplement parce que nous, effectivement, on est du côté de la population et on est là pour soigner les gens. Et à l'heure actuelle, si cet avenant passe, c'est la mort de la médecine libérale.
Alors quel avenant ?
L'avenant numéro 8, celui qui consiste à limiter les dépassements d'honoraires. La mort de la médecine libérale, c'est ça. C'est-à-dire que l'année prochaine, on dira c'est 150, l'année d'après, on dira c'est 100, l'année d'après, on dira c'est 50, et après, bah, nous, on ne pourra pas vivre de notre activité, ça c'est sûr.
Alors je comprends pas très bien l'objectif de cette manifestation parce que j'ai rencontré donc le porte-parole du syndicat des jeunes biologistes médicaux, Lionel Baron, qui me disait que ça n'avait rien à voir avec les dépassements d'honoraires, cette manifestation-là, mais que c'était plutôt sur la question des mutuelles, de la privatisation
les
de la santé. Je comprends pas très bien.
En fait, les mutuelles servent à payer les dépassements d'honoraires. Le budget qui est actuellement utilisé pour les mutuelles pour rembourser ces fameux dépassements d'honoraires ne représente même pas 10% de ce que ça leur rapporte. C'est pas logique. Les dépassements d'honoraires sont largement couvrables par les mutuelles. Les mutuelles nous saignent et nous, on vous soigne.
Alors si j'ai bien compris, il faudrait se débarrasser des mutuelles au profit de la caisse d'assurance maladie.
Bah, soit revaloriser effectivement les actes, mais ça ne sera pas possible. Donc c'est maintenir le système des mutuelles. On ne dit pas qu'il faut plus qu'il y ait des mutuelles. On faut dire simplement qu'il faut qu'elles jouent le jeu. C'est-à-dire que c'est leur rôle à elles de rembourser. Elles ont été créées pour ça. Il y a une convention
qui a été créée pour quoi ?
Pour payer les dépassements d'honoraires.
Ah, les mutuelles ont été créées pour payer les dépassements d'honoraires.
Oui,
parce que les tarifs n'ont jamais été augmentés par la Sécu.
Les tarifs sont bloqués aux tarifs de 1980. Par exemple, je vous opère d'une appendicite, et au passage, je vous sauve la vie, je gagne 177 € au tarif de la Sécu. S'il n'y a pas de dépassement d'honoraires, c'est 177 €.
Oui, sur ces 177 €, tu prends quand même un EDOP qui t'aide.
Une secrétaire. Et sur les 177 €, il y a un tiers, c'est des charges.
Un aide-op, c'est-à-dire ?
Un aide opératoire, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous aider à tenir les écarteurs pendant que vous opérez.
Alors c'est quoi la solution ?
Bah, si les mutuelles faisaient leur travail, il n'y aurait pas de problème. Tous les gens seraient remboursés de la totalité des dépassements d'honoraires.
D'autant plus qu'elles peuvent le faire. Elles ont les moyens financiers pour le faire.
Mais les mutuelles, par définition, c'est la privatisation de la santé.
Ben oui, mais pour l'instant, notre système, il fonctionne que comme
parce
ça.
Parce que là, j'entends halte à la privatisation de la santé, il faut que les mutuelles puissent faire leur travail. Je comprends rien.
On ne veut pas de convention entre les mutuelles et les chirurgiens.
Il y a un peu obtus, ce Ciao. Non, vous ne trouvez pas, Antoine Ciao, le reporter de la base où j'y suis. Il ne comprend pas bien. Hein. C'est pourtant simple, non ? Il faut que les mutuelles remboursent les dépassements d'honoraires. Voilà, c'est pas compliqué. Les mutuelles sont en train de saigner nos médecins, nos pauvres médecins. Alors évidemment, vous êtes là en disant « Oui, mais les médecins, ils sont là, ils machinent dans les rues, et je pleure la bouche pleine, etc. » Pas du tout, ils n'ont qu'un seul souci, c'est de vous sauver la vie. De vous sauver la vie, ça vient d'être dit. C'est des gens qui sont là pour nous sauver la vie. Vous n'allez pas mégoter, un petit dépassement, etc. N'importe comment, ils ne peuvent pas, puisque les tarifs de la Sécu sont bloqués depuis 80. Alors vous dites, mais on peut peut-être les remonter, peut-être un peu les tarifs de la Sécu. Ça, si vous êtes Antoine Chao, par exemple, c'est une idée qui peut vous traverser l'esprit. Et on vous dit, mais pas question, puisqu'il y a un trou de la Sécu. Vous n'êtes pas au courant, monsieur Chao, qu'il y a un trou de la Sécu. Bref, Antoine Chao ne comprend rien du tout. Je ne sais pas s'il faut garder des reporters comme ça dans une équipe aussi digne et aussi qui fait du vrai journalisme. Enfin, allons voir le professeur Grimaldi
à nouveau.
Vous faites la différence entre les complémentaires santé mutuelles et lucratives ?
Ben écoutez, historiquement, il y avait une grande différence. Les mutuelles ont même participé à la création de la sécurité sociale. Elles se sont transformées au fil des ans en de véritables assurances privées, mais qui ne versent pas de dividendes. Elles n'en sont pas moins des assurances privées, à but lucratif, mais ne versent pas de dividendes. C'est très différent de la sécu. Alors le mot mutuel, aujourd'hui, je considère, ne correspond plus à une réalité qu'il a été historiquement. Comme je vous l'ai dit, elles sont moins égalitaires, moins solidaires, moins efficientes, pour reprendre un mot à la mode, que la sécurité sociale.
Et on a très peu entendu aujourd'hui, dans la manifestation des internes, la revalorisation du secteur 1.
Et ça, c'est la base. C'est moi la critique que je fais à la ministre. La négociation, elle doit porter sur le secteur 1. Un gouvernement de la République, à la limite, je dirais même quelque chose son étiquette politique, doit assurer sur tout le territoire un accès aux soins remboursés. Donc, ça veut dire défendre le secteur 1. Il faut revaloriser. La question, c'est où trouver l'argent. Sur les médicaments génériques, il y a entre 1 et 2 milliards d'économies possibles. Je comprends à l'industrie pharmaceutique, mais ce que fait l'Angleterre. Je veux dire, on ne sera pas des gens exceptionnels. On aura égorgé l'industrie pharmaceutique parce qu'on a fait ça. Et en partie, l'industrie pharmaceutique, et il faut rajouter en partie aux pharmaciens qui ont enfin une sorte de rétroversement. Prenons d'autres exemples, il y en a très nombreux. Hein. Les examens inutiles, tout le monde connaît ça. Les cures thermales sont remboursées par la sécurité sociale. Bon, c'est peut-être de l'emploi, c'est peut-être de l'aménagement du territoire, mais ça n'a rien à voir avec la santé. Moderne, en tout cas. Le tabac, c'est 18 milliards par an de coûts à la sécurité sociale, le tabac. C'est Yves Bur, ancien député UMP, qui a fait un rapport excellent, qui dit ça. 18 milliards. Les taxes pour le tabac, c'est 11 milliards. Donc c'est pas de 4% qu'il fallait augmenter le coût du tabac, c'est 10%. Et on pourrait dire que tout ça, on va verser la moitié des économies à la sécurité sociale. Et que les médecins devraient aussi participer à la gestion de la sécurité sociale. Ils sont attachés très bien. Les usagers et les médecins devraient être dans la gestion de la sécurité sociale. Des économies sont possibles. Et si on décidait que la moitié des économies servent à renflouer ce qu'on appelle le trou de la sécu, mais que l'autre moitié sert à revaloriser le secteur 1 pour que tous les patients aient accès au secteur 1, on a des moyens financiers. On dépense quand même près de 12% de la richesse nationale pour la santé. On a un certain nombre de moyens. Hein. Et il faut dire qu'est-ce qui est prioritaire. Et effectivement, le secteur 1 est prioritaire. Bon. Et on pourrait le faire.
Vous croyez, docteur ?
Mais j'en suis sûr, madame. Suivez mon ordonnance à la lettre et revenez me voir dans une huitaine.
Au revoir, docteur.
Au revoir, madame. À la personne suivante. Vous, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas ?
Voilà, docteur. Ça n'est pas que ça ne va pas, mais...
Où avez-vous mal ?
Je n'ai pas mal.
Et d'où souffrez-vous ?
À proprement parler, je ne souffre pas, monsieur le médecin. Seulement, permettez que je vous explique.
Vous en appris, mon ami, prenez votre temps.
Voilà. Eh bien, figurez-vous que ce matin, je suis été au petit endroit, et en sortant, j'ai été incapable de me redresser. Je suis devenu, comme qui dirait, bossu.
Et sans souffrance ?
Sans souffrance.
Tant mieux. Avez-vous des antécédents ?
Si j'ai des autres accidents.
Mais enfin, connaissez-vous dans votre famille des cas analogues ?
Le catalogue ?
Écoutez, mon ami, ne vous troublez pas. Je vous demande simplement si dans vos ancêtres, aïeux ou ascendants, il existe à votre connaissance d'autres subito-bossus.
Pas que je sache, monsieur le médecin.
Je vais vous examiner. Tenez, faites A.
Oh !
Pas O, A.
Paoua! 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 Paoua!
Ça va! Toussez!
Let it go.
I feel all right. Yes, I begin to feel all right now. Splash! Yeah, I tell you, everything's gonna be all right. Splash! Flush.
Alors ici, c'est le quartier des étudiants en médecine, hein, c'est ça, Oriane?
Oui, c'est le quartier des étudiants en médecine. Il y a Cochin, puis il y a les Cordeliers qui sont à Odéon. Voilà.
D'accord, ici, c'est métro...
Gobelin, en fait.
Et donc vous êtes étudiante, hein, c'est ça?
Oui, étudiante à Paris 5. Moi, je suis en 4e année et Marion en 5e année.
Alors, Oriane et Marion, vous n'étiez pas dans la rue pour soutenir la contestation de vos camarades étudiants en médecine?
Non, on n'y était pas, non. Au départ, c'était quand même présenté comme une grève pour des intérêts uniquement personnels, des étudiants, des médecins, et notamment sur leur liberté d'installation et sur la liberté des dépassements d'honoraires. Donc c'est totalement... égoïste, vu que c'est pensé uniquement à ses intérêts propres, sans réfléchir aux problèmes sous-jacents concernant le système de santé et les problèmes de démographie médicale, etc. Sachant que, faut pas oublier aussi que les médecins sont quand même dans les 10% les plus riches de la population. Bien sûr que j'aimerais bien m'installer là où j'ai envie au moment où je vais me mettre à travailler, mais les problèmes de désertification médicale, pour moi, ça remonte pas uniquement à la quantité de médecins et à leur lieu d'installation, c'est aussi le problème du manque d'éducation à la santé des patients et quelle santé on veut promouvoir. Et voilà, l'autre fois, on a pris 2-3 heures, on s'est réunis, on était 10, on est venus avec différents documents et on a essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait. Et voilà, et ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que... un paquet de gens ne comprennent pas réellement le système de privatisation du système de santé. C'est quand même la base, même toute l'histoire de la création de la sécurité sociale. Et pourtant, quand on pose un petit peu la question et qu'on essaie de creuser avec quelques personnes, personne ne sait en parler, quoi.
Mais vous, Oriane, vous aspirez à être dans la médecine libérale ou pas?
Oui, mais j'aurais pas du tout envie d'une rémunération à l'acte. Je préfère avoir une rémunération fixe et pas travailler plus pour gagner plus, quoi.
Et vous voulez faire quoi ?
Plutôt de la médecine générale. Voilà, ça correspond plus à la vision que j'ai de la médecine sur la relation avec le patient et la prise en charge globale, le fait de pouvoir aussi intégrer un peu de social et de psychosocial et voilà. Je pense qu'il y a des spécialités qui sont très intéressantes, mais que plus on est spécialisé et plus on s'intéresse à un petit bout du malade et pas à sa totalité.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer les études de médecine rapidement?
Les études de médecine, il y a un concours en première année. Ensuite, il y a 2 années où on a juste des cours à la fac, où personne, 90% des étudiants n'assistent pas, donc ils apprennent leurs cours dans des livres. Et ensuite, il y a 3 années d'externat, où là, tous les matins, on est en stage à l'hôpital, dans différents services, et l'après-midi, on a des cours, ou alors, si on n'y va pas, on apprend dans des livres. À la suite des 3 années d'externat, donc on passe le concours de l'internat. Et l'internat, ensuite, c'est entre 3 et 5 ans selon les spécialités. Donc 3 ans pour la médecine générale, 5 pour les spécialités chirurgicales, et 4, c'est plus les spécialités médicales et psychiatrie, voilà.
Et est-ce qu'il y a vraiment un clivage entre les étudiants qui visent la médecine générale et ceux qui veulent se spécialiser, Marion ?
Disons qu'il y a surtout, je pense, une vision très négative tout au long de nos études de la médecine générale, sachant que pratiquement tout notre enseignement est réalisé par des praticiens hospitaliers et des personnes qui ont fait une carrière hospitalière universitaire, la médecine générale est de facto dévalorisée.
Enfin, nous, clairement, en deuxième année, on nous dit « Attention, si tu travailles pas, tu vas finir généraliste dans la Creuse. » Ce qui, quand même, c'est dommage, c'est ce que moi, je veux faire. Hein. Et pourtant, voilà, j'ai pas l'impression d'être un mauvais médecin. Et nous, on est 400 étudiants et il y a 17 terrains de stage de médecine générale pour les 400 étudiants pendant l'année, quoi. Donc c'est ridicule.
On peut faire qu'un seul stage chez le médecin généraliste et un seul hors du CHU, quoi. C'est un gros défaut de la formation que de nous former uniquement au CHU alors que 60% vont être en ville.
Merci à tous. C'était un reportage d'Antoine Chao, le meilleur système de santé du monde. La suite demain à 15h. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis, vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur labas.org. Et on peut se retrouver aussi sur la page Facebook de l'émission. Jean-Philippe Jeanne et Guillaume Roux étaient à la technique aujourd'hui. Lucie Hakoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37 et on se quitte pour aujourd'hui avec Dave Brubeck, Take 5.
Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin.
Sur les épaules de Darwin, l'émission culte de Jean-Claude Amezen est devenue aujourd'hui un livre. Ce livre est un voyage. Un voyage à la découverte d'un univers toujours plus riche et mystérieux. Un voyage à la rencontre de nous-mêmes. Sur les épaules de Darwin, un livre de Jean-Claude Amezen, coédité par France Inter.
France Culture, une radio qui s'écoute et qui se lit. France Culture Papier, numéro 4, en kiosque et en librairie. La revue qui vous permet de retrouver chaque trimestre les grandes voix et les grands moments de France Culture est arrivée. Et dans ce numéro 4, un entretien exclusif avec Alain Finkielkraut. France Culture Papier, disponible aussi sur abonnement. Une coédition France Culture, une radio du groupe Radio France.
Allez, on va laisser sa chance à Antoine Chao demain pour la suite de le meilleur système de santé du monde. On continue avec cette histoire et demain, je vous promets, on va tout comprendre. On se retrouve donc à 15h demain pour la basse. J'y suis, je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Des salariés de l'usine ArcelorMittal de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône bloquent aujourd'hui l'entrée de l'usine. Une action en solidarité avec leurs collègues de Florange en Moselle qui, eux, selon la CFDT, s'apprêtent à occuper les hauts fourneaux. Ce matin, Bruxelles a confirmé le retrait d'ArcelorMittal du projet Ulcos, projet pilote d'acier vert qui devait être mis en œuvre sur les hauts fourneaux du site mosellan. Le groupe Mittal a tenté de minimiser l'impact de ce retrait. Cela ne signifie pas l'abandon du projet, selon lui. Le gouvernement va donner un coup de pouce à l'aide personnalisée au logement, annonce de Cécile Duflot cet après-midi lors d'un déplacement à Clermont-Ferrand. À compter du 1er janvier 2013, l'APL sera indexée sur l'indice des loyers. Depuis 3 ans, elle en était déconnectée, ce qui signifiait que l'APL diminuait par rapport au montant du loyer, expliquait la ministre du Logement. Désormais, ça ne sera plus le cas. L'extension des tarifs sociaux de l'énergie va bientôt voir le jour. Selon une source proche du dossier, un arrêté va être pris dans les prochains jours. Il s'agit de lutter contre la précarité énergétique. 4 millions de foyers vont donc pouvoir en bénéficier. La proposition de loi Brotte avait pourtant été rejetée par le Sénat. On a perdu trop de temps, dit-on, donc l'extension des tarifs se fera par arrêté. C'est une première. Les dépenses de médicaments se sont stabilisées en France l'an dernier, plus 0,2% seulement par rapport à 2009, soit 22,84 milliards d'euros remboursés. On est loin des croissances de plus de 9% au début des années 2000. Et cette stabilisation, selon l'assurance maladie, est due aux actions de régulation des pouvoirs publics. Pour 2012, on constate une hausse importante de la part des génériques. Angela Merkel n'y va pas par quatre chemins. La chancelière allemande a dénoncé aujourd'hui le projet de nouvelle colonie en Cisjordanie et à Jérusalem. Et elle l'a fait en présence de Benjamin Netanyahou, le premier ministre de l'État hébreu, en visite actuellement à Berlin. « Nous sommes d'accord pour dire que nous ne sommes pas d'accord », a déclaré Angela Merkel. Il s'agit là, dit-elle, d'une recommandation d'un pays ami. Israël est un État souverain. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui à Madrid et Barcelone pour défendre l'unité de l'Espagne. Cela fait suite aux tensions entre le gouvernement de Rajoy et le gouvernement régional de la Catalogne, dont le président a promis un référendum sur l'autodétermination. On l'apprend aujourd'hui, Patrice Talon a été interpellé hier à Paris. L'homme d'affaires béninois est accusé de tentative d'empoisonnement du président béninois Thomas Boni Yayi. Une femme et sa fille de 3 ans ont été sauvées aujourd'hui de l'incendie de leur pavillon. Ça s'est passé à Mézières-sur-Seine, dans les Yvelines. Ce sont des agents de sécurité de la SNCF qui ont vu la fumée noire s'échapper par la cheminée et par le toit. Et ils ont donc sorti la mère et la fille à 10 minutes près, selon les pompiers. Elles auraient été intoxiquées. Fermeture d'installation, diminution des programmes militaires, il faut faire attention aux rumeurs. Le ministère de la Défense met en garde aujourd'hui contre les pistes de discussion qui circulent à propos du livre blanc. Les conclusions doivent être rendues en février. Le livre blanc de 120 pages a pour objectif de fixer les ambitions stratégiques de la France pour les décennies à venir. Vous écoutez France Inter, 16h03.
On va tous y passer.
Eh bien écoutez, cette année, il y a un cadeau qui devrait vous sauver. C'est la boîte de jeux France Inter qui va vous permettre de faire vos propres émissions dans le véritable esprit France Inter.
Eh bien moi, j'aurais voulu être chroniqueuse et mon émission, elle se serait appelée...
On va tous y passer. Qu'est-ce que je vous dis?
Vous êtes sur France Inter?
Non. Frédéric Lopez.
Demain, nous recevrons Pierre Richard.
Un des rares acteurs français connus en Asie et on l'appelle Peya Leita.
Pour assister à l'émission, rendez-vous demain à partir de 10h30 devant la porte B de la maison de Radio France ou réservez dès à présent vos places en vous connectant sur franceinter.fr à la page de l'émission.
Tous les éléments qui permettent de faire notre émission sont dans la boîte, y compris un faux public en PVC complètement apathique.
Frédéric Lopez, on va tous y passer du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
À demain.
France Inter.
La voix est libre.
Et pour nous, c'est maintenant. Enfin, pour vous, Frédéric Lodéon, bonjour.
Bonjour Laetitia, on vous retrouve tout à l'heure à 17h. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et des remerciements d'abord de la part de Ludivine, l'épouse de ce chef d'orchestre Rodolfo Casares qui a été enlevé au Mexique. Vous savez, j'en ai parlé la semaine dernière régulièrement. Donc il y a quelques nouvelles. Merci parce qu'il y a eu plein de témoignages d'auditeurs, de vous-même, donc des signatures et des messages de soutien. Et je rappelle d'ailleurs un site, une plateforme sur laquelle on peut toujours laisser des signatures. Il y a déjà 47 000 messages de soutien sur www.change.org. Tout simplement. Alors, il y a l'Orchestre Symphonique Universitaire de Grenoble et son chef Patrick Souillot qui ont décidé d'apporter leur soutien aussi. Ils vont donner un message au début de chaque concert à Uriage, c'est-à-dire c'est demain avant le Messie de Handel à Vars, le 9 à Grenoble au Centre œcuménique Centre Saint-Marc, les 14 et 15 décembre, à La Source, à Fontaine le 19 décembre. Donc, vraiment, tout le monde s'y met. Et il y a quelque chose de très important, une conférence en soutien évidemment à tous les otages du monde, mais il y aura Ingrid Betancourt, marraine de l'association de soutien aux otages, et puis Joëlle Brunnery-Kaufmann, épouse de Jean-Paul Kaufmann, Jean-Louis Normandin, président d'Otages du Monde. Demain, donc, une conférence grande conférence de presse à l'hôtel de ville de Paris, 5 rue Lobeau, dans le 4e. Enfin, on trouve facilement l'hôtel de ville à 15h45. Demain, à 15h45, plein de gens seront là, des musiciens, d'autres aussi, pour soutenir les otages. Et puis, précisément, en ce qui nous concerne, on va penser beaucoup à Rodolfo Casares. Voilà, j'ai eu Ludivine qui prenait le train pour venir à Paris. Elle était sur le quai de la gare il y a quelques grandes minutes, on va dire. Et elle vous remercie, je le répète, de tout cœur. Mais voici un personnage qui a eu des soucis, lui aussi, dans sa vie, dû à une politique diabolique, puisque Adolf Siber est venu d'Autriche. Il a été évidemment pourchassé par les nazis, il est arrivé en France, il a réussi à se remettre de moments extrêmement extrêmement dur. Et il s'est consacré à la musique de divertissement, à la belle musique de l'âge d'or de la valse, par exemple. Il nous a gravé vraiment beaucoup d'enregistrements. Celui que vous allez pouvoir goûter vient de chez Bayard Musique et d'Emil Waldteufel, le musicien alsacien. Voici la valse « Toujours ou jamais ».